100% d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens avec aujourd'hui une extrême gauche invisible en Autriche, le tourisme de la révolution de velours, des Pony Kids dublinois victimes de la crise, enfin le chiffon rouge du tourisme social, mythe ou réalité. En Autriche, l'extrême gauche peine à donner de la voix dans un pays peu à peu rattrapé par la crise. Le chômage augmente et la croissance ralentit. Situation dont pâtissent les partis de gouvernement et qui profite aux extrêmes, ou plutôt à un extrême et un seul, l'extrême droite. C'est en effet le paradoxe autrichien, la communauté anticapitaliste, antiraciste, antifasciste est très active, mais quasiment inexistante sur le plan politique. Nathanaël Vitran est parti à la rencontre de ses militants sans porte-voix.
Ce jeudi soir, une bonne centaine de manifestants d'extrême gauche sont venus exprimer leur hostilité au FPE. Une contre-manifestation alors que le parti d'extrême droite autrichien a rassemblé ses partisans pour protester contre la création d'une école islamique dans un quartier de Vienne. L'extrême droite a réuni 250 manifestants, deux fois plus que l'extrême gauche. Et dans les sondages, l'écart est beaucoup plus important encore. Le grand parti d'extrême droite caracole en tête avec près de 30% d'Autrichiens se disant prêts à voter pour ses représentants. À l'autre bout du spectre politique, vide total. Aucun parti de la gauche radicale n'est représenté au Parlement ou même simplement pris en compte par les instituts de sondage. Une situation qui frustre les militants anticapitalistes comme Shadi.
Le seul grand parti de gauche en Autriche, c'est le Parti social-démocrate. Peut-être que c'était un parti socialiste à une certaine époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par exemple, cette année, ça a été très difficile de décider pour qui voter aux élections européennes. Je ne me sentais représentée par aucun parti.
D'autres comme Mini, très impliquée dans les mouvements étudiants, ne vont plus voter depuis longtemps. Son engagement politique se fait autrement.
J'ai l'impression que ma voix est entendue, parce que je m'engage en dehors des partis. Par exemple, je discute avec des gens qui ont la même façon de penser. On parle de la situation, de ce qu'on peut changer, de comment se faire entendre, et on organise des manifestations, et on est très actif sur Internet. On essaye de faire réfléchir les gens au système dans lequel ils vivent.
Bruce n'est pas d'accord. Cet étudiant est de nationalité suisse, même s'il est né et a grandi en Allemagne. Pour lui, il manque un acteur sur la scène politique autrichienne.
Ce qui manque ici, c'est une partie unique comme en Allemagne, la gauche, Die Linke, ou bien la nouvelle partie anticapitaliste en France, par exemple. Ça manque ici. On a juste des groupes très petits, fractionnés, qui se disputent entre eux. Mais la perspective pour moi, c'est d'avoir une partie plus grande, plus ouverte, plus fort aussi.
Diviser, c'est sans doute la caractéristique première de l'extrême gauche autrichienne. Tom Alayari, l'un des organisateurs de cette manifestation anti-FPE, en est bien conscient, même si, il l'espère, les choses sont en train de changer.
C'est un vrai problème en Autriche, mais ce soir, nous avons réussi à rassembler de nombreuses organisations différentes, certaines avec seulement deux ou trois représentants. Mais quand on connaît la scène politique autrichienne, c'est déjà un progrès.
Malgré tout, la division reste la norme.
Quand on organise des manifestations sur des sujets économiques, il y a des organisations qui ne parlent pas de capitalisme, mais qui, par exemple, parlent de capitalisme juif. Et du coup, nous avons un problème avec eux. Ce n'est pas facile. Il faut toujours se battre pour ses idées au sein du mouvement. Et ce sera toujours comme ça.
Pour Bruce, notre sympathisant suisse, comme pour beaucoup d'autres, cela tient aussi à la situation économique de l'Autriche.
L'Autriche, c'est le pays le deuxième plus riche de l'Europe, et la situation est beaucoup plus stable que par exemple en France ou en Espagne ou en Grèce ou en Italie. Tu ne peux pas enforcer un mouvement social. S'il n'y a pas les conditions politiques, économiques, un sentiment de crise, tu ne peux pas, on dit aus dem Boden stampfen, tu ne peux pas forcer ce mouvement juste comme ça.
La situation économique pourtant se dégrade petit à petit et les deux grands partis de gouvernement qui au temps de leur splendeur réunissaient à eux deux plus de 90% de l'électorat ne séduisent plus désormais qu'une courte majorité d'Autrichiens. Mais l'extrême gauche ne profite toujours pas de cette situation, bien au contraire. Au passage de la manifestation, des passants s'énervent. Vous êtes des traîtres, crie-t-il aux manifestants d'extrême gauche. Il faudra l'intervention musclée d'un policier pour calmer le jeu et disperser la petite troupe qui s'est formée. L'ironie, c'est que dans ce quartier populaire, comme un peu partout en Autriche, l'école bleue déçue par la gauche se tourne aujourd'hui vers l'extrême droite. Pour les militants de la gauche radicale, c'est une source de frustration supplémentaire. Eux ne rêvent plus du grand soir, mais au moins d'incarner la résistance au FPE. Sur ce sujet au moins, ils sont tous d'accord.
Le grand soir en Tchécoslovaquie, c'était il y a 25 ans, encouragé par la chute du mur de Berlin. Un mouvement pacifique poussait le régime communiste tchécoslovaque à laisser le pouvoir. La révolution de velours menée par Václav Havel est déjà loin dans une capitale tchèque, où pullulent désormais boutiques touristiques et centres commerciaux. Mais à Prague, il reste quand même quelques vestiges de ces événements historiques, Alexis Rosenzweig.
Il y a d'abord les incontournables, l'avenue nationale, Narodny Trida, là où les étudiants se sont fait tabasser le 17 novembre 89, lieu d'une brutalité policière qui a engendré dans les faits la fin d'un régime moribond. Monument discret, avec des mains sculptées et des doigts en V, symbole à l'époque de la victoire contre le totalitarisme. Monument où chaque année sont déposées fleurs et bougies. À quelques centaines de mètres, de l'autre côté de la rivière Vltava, c'est un monument à la mémoire de toutes les victimes du régime communiste qui a été érigé au pied de la colline de Petchin, à quelques stations de tramway de l'esplanade de l'Etna, où une foule immense s'était rassemblée malgré le froid fin novembre 89, alors que le pouvoir avait déjà vacillé. Pour tous ceux qui veulent avoir un aperçu du sort réservé aux dissidents avant 89, il y a notamment les sous-sols de ce qui est aujourd'hui un hôtel, avec encore une des cellules où Havel a été enfermé. D'autres auront peut-être la chance de réserver l'appartement avec le célèbre balcon d'où ce même Václav Havel s'est adressé à la foule, regroupée sur la grande place Venceslas, Václavské náměstí, quand les trousseaux de clés étaient agités pour indiquer aux apparatchiks qu'il était temps de partir. Mais comme Havel était un homme de théâtre, un arrêt est recommandé au Činoherný klub, là où a été fondé son forum civique, ou au bar du théâtre Naza Bradley, l'un de ses repères. 3 ans après sa mort, la tombe de Václav Havel serait peut-être la dernière étape d'un tour spécial révolution de velours dans le quartier de Vinohrady, à moins de 500 mètres de la tombe d'un autre illustre pragois, Franz Kafka. Pony boy, pony boy, won't you be my pony boy? Giddy up, giddy up, giddy up, whoa, my pony boy.
À Dublin, on les appelle les Pony Kids, ces jeunes qui chevauchent jusque dans les quartiers défavorisés de la capitale irlandaise. Achetés pour une bouchée de pain, de nombreux chevaux ont été laissés à l'abandon depuis le début de la crise. Leurs propriétaires n'ont plus les moyens de s'en occuper. La ville a dû réagir pour s'occuper et des chevaux et de leurs jeunes propriétaires. C'est un reportage de Sébastien Duval.
Il n'est pas encore 9h. Les Emma donnent déjà sa première leçon de la journée au centre équestre Cherry Orchard. Pas toujours à l'aise sur leur monture, 4 garçons suivent ses consignes avec attention. Ils ont tous autour de la vingtaine, des baskets aux pieds et des survêtements de marque sur le dos. Le centre se trouve à Ballyfermot, un quartier défavorisé de la banlieue ouest de Dublin. Ici, la plupart des élèves sont des jeunes déscolarisés, comme Jason.
J'ai toujours été attiré par les chevaux, mais ce n'est pas ce que vous croyez, j'aime aussi les femmes. J'ai grandi entouré de chevaux, tout mon entourage en avait, donc je n'ai pas vraiment eu le choix, je suis tombé dedans moi aussi. On avait l'habitude de les laisser dans des champs, mais il y a tout ce qu'il faut ici, des étables, des selles. On monte à cru dans la rue, sans rien, sans rennes. C'est quand même plus confortable avec une selle.
Dans certains quartiers chauds de Dublin, les jeunes préfèrent le cheval à la mobylette. Une tradition héritée d'anciennes familles tziganes, aujourd'hui sédentarisées. Afin de capitaliser sur cette passion, le centre a ouvert ses portes en 2004. Financé par la municipalité de Dublin et le ministère de l'Agriculture, il s'étend sur plus de 4 hectares, entre les rangées de maisons mitoyennes et les murs de la prison voisine. Une cinquantaine de jeunes y suivent 5 jours par semaine un enseignement traditionnel centré autour du cheval. Marc Mellotte est le responsable du centre.
Ils sont tellement passionnés de chevaux qu'ils ne réalisent pas vraiment qu'ils travaillent. Si c'était une école comme les autres, ils ne seraient pas là ce matin. Le cheval est au cœur de l'apprentissage. Ça ne marcherait peut-être pas dans d'autres endroits, mais plusieurs quartiers de Dublin ont un lien très fort avec le cheval. Et Ballyfermot est l'un d'entre eux. On voit même parfois des jeunes monter à cru et faire la course en pleine rue.
Au plus fort du boom économique irlandais, de nombreuses familles des quartiers populaires de la capitale se sont mises à vouloir un cheval, signe extérieur de richesse. Mais depuis le début de la crise, des milliers de montures ont été laissées à l'abandon par leurs propriétaires, faute d'argent pour les entretenir. La SPA locale en récupère encore chaque semaine, regrette Gillian Bird.
Les jeunes avaient l'habitude d'échanger leurs chevaux contre des téléphones. Tiens, c'est un portable à 100 euros, je te le donne en échange de ton cheval. Ça ne vaut même plus autant aujourd'hui, les gens n'en veulent plus. S'ils achètent un cheval quelque part pour 20 euros et que ce dernier tombe malade, cela coûtera entre 60 et 100 euros pour faire venir un vétérinaire. Pourquoi s'embêter? Je vais juste en acheter un autre.
Elle nous emmène voir un étalon, un bel animal à la robe noire qui présente une large plaie au niveau de l'encolure. Les chevaux ne sont pas seulement laissés à l'abandon, certains sont également victimes de mauvais traitements. La SPA a lancé récemment une campagne de castration afin de mieux contrôler la population équine aux alentours de Dublin.
Il n'y a pas assez de place pour tous les accueillir. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont donc euthanasiés. Mais c'est peut-être un mal pour un bien sur le long terme. La plupart des chevaux qui naissent comme ça, dans la nature, sans aucun contrôle, ne sont pas de bons chevaux. Ils peuvent notamment présenter des problèmes de consanguinité.
Au centre de Cherry Orchard, les jeunes sont justement sensibilisés à ce genre de questions. Ils apprennent à s'occuper des chevaux au quotidien et à les respecter. Mais pas seulement. Selon le directeur Marc Mellotte, l'enseignement dépasse le simple cadre équestre.
On est au contact des jeunes jour après jour. Ils savent qu'ils peuvent venir vers nous si jamais ils rencontrent des difficultés. Même des difficultés domestiques, des problèmes de criminalité ou de drogue. Nos travailleurs sociaux sont là pour les aider, ainsi que leurs familles et leurs amis. On essaie de briser le cercle vicieux de la pauvreté, de l'exclusion, de leur donner une éducation afin qu'ils puissent poursuivre leurs études et trouver un emploi.
Visiblement, le message semble bien passer auprès des jeunes cow-boys urbains. La tête haute sous une bombe mal ajustée, Jerry se voit même travailler auprès des chevaux à l'avenir.
J'aime les animaux en général et les chevaux en particulier. Ils nous transmettent de bonnes valeurs comme l'empathie ou des trucs dans le genre. J'aimerais bien travailler dans ce milieu, il y a pas mal de possibilités. On peut devenir jockey, groom ou maréchal ferrant, ou même aller dans une école vétérinaire. Personnellement, je ne sais pas trop pour l'instant. Il me reste encore un an, ça me laisse le temps de réfléchir.
Encore nombreux il y a quelques années, les Pony Kids se font de plus en plus rares dans les rues de Dublin. Le cheval est une institution menacée dans la capitale irlandaise. Symbole de ce déclin, le quartier de Smithfield, où avait lieu chaque premier dimanche du mois la plus grande foire aux chevaux du pays. Des centaines de montures s'entassaient parfois sur les pavés du centre-ville, dans le désordre le plus total. La municipalité a longtemps cherché un prétexte pour y mettre fin. Elle l'a finalement trouvé en 2011, lorsqu'une fusillade a éclaté au milieu de la foule.
Will be proud to say, I am an European.
C'est un fait attesté par les chiffres. Les immigrés européens sont loin d'être des profiteurs. Très peu sont au chômage dans leur pays d'accueil, moins de 1% de la population totale de l'UE. Les ressortissants des autres pays membres ont même un taux d'emploi supérieur à la moyenne et surtout perçoivent moins d'allocations que les nationaux. Mais les idées reçues ont la vie dure et la Cour de justice de l'Union européenne vient de prendre une décision majeure, selon elle, pour mettre fin au tourisme social. Alors pour en parler avec nous, nous sommes avec Daniel Vigneron de myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler la teneur de cette décision ?
La Cour européenne a estimé que les pays de l'Union n'étaient pas tenus d'octroyer des prestations sociales à des citoyens européens qui vivent chez eux dans l'unique but de bénéficier d'aides sociales. C'est ce que les souverainistes et autres nationaux populistes appellent le tourisme social. La Cour avait été saisie d'un cas d'une Roumaine qui vit avec son fils chez sa sœur à Leipzig depuis 2010. Sa demande d'allocation sociale avait été refusée sous prétexte qu'elle ne recherchait pas activement d'emploi. Selon la Cour, la jeune femme ne vivait en Allemagne que pour toucher les aides sociales et elle n'avait pas de ressources personnelles suffisantes pour y vivre avec son fils.
Alors qu'est-ce que cela change concrètement ?
Rien ou pas grand-chose. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne fait que clarifier les règles concernant le versement des prestations sociales aux migrants européens. Il rappelle un paragraphe d'une directive sur la libre circulation des personnes de 2004, directive stipulant que les personnes sans emploi qui ne cherchent pas à en avoir ne peuvent pas bénéficier d'un droit de séjour et ne peuvent donc pas, a priori, prétendre à une égalité de traitement avec les ressortissants du pays. Cependant, rien n'interdit à un pays d'octroyer des aides sociales, ce que ne fait pas l'Allemagne.
Alors, ce jugement concerne avant tout l'Allemagne. Qu'en est-il ailleurs en Europe, Daniel ?
En France également, cela ne change rien. Les allocations familiales, par exemple, ne sont versées aux Européens vivant avec leurs enfants que s'ils travaillent ou, pour les étudiants, s'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Quant au RSA, les immigrés européens doivent, pour y avoir droit, être titulaires d'un droit de séjour. Or, pour cela, il faut justifier d'une activité rémunératrice ou de ressources financières régulières. Autrement dit, rares sont les Européens qui bénéficient longtemps du RSA. En réalité, cela concerne uniquement ceux qui, après les 5 ans de séjour, ont obtenu la carte permanente de séjour et se retrouvent sans ressources. Tout cela n'a pas empêché Marine Le Pen, présidente du Front National, de se réjouir d'une victoire politique en ajoutant que l'UE s'était rendu compte qu'elle avait engendré un monstre en permettant le tourisme social. Comprenne qui pourra.
Le Premier ministre britannique David Cameron, qui milite pour des règles d'immigration au sein de l'Europe plus strictes, doit lui aussi être satisfait par cette décision.
Il s'en réjouit évidemment lui aussi et il le dit haut et fort, c'est un argument bienvenu alors que son parti conservateur ne cesse de perdre du terrain face aux europhobes de l'UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. David Cameron a par ailleurs annoncé récemment qu'à partir de novembre prochain, il veut donner la priorité aux Britanniques. Ainsi, les Européens installés en Grande-Bretagne bénéficieront d'allocations chômage et familiales pendant 3 mois seulement contre 6 actuellement. Et il a beau jeu de mettre en avant le jugement de la Cour de justice européenne pour expliquer qu'il a le feu vert de l'Europe pour freiner le welfare tourism, traduction anglaise de tourisme social.
Mais d'où vient cette expression qui fait plutôt penser au tourisme humanitaire et solidaire ?
Cette formulation est en effet particulièrement douteuse, sa réalité aussi. L'expression est apparue après la chute du mur de Berlin. Les eurosceptiques, mais aussi certains syndicats, craignaient un dumping social engendré par un afflux de travailleurs d'Europe de l'Est. Des immigrés attirés par l'opulence occidentale et son état-providence. Avec l'intégration de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007, cette peur a refait surface. Et l'on se souvient du fameux plombier polonais, travailleur détaché, qui allait prendre le travail des travailleurs en profitant des aides sociales des pays riches.
Pourtant, dans certains secteurs comme le bâtiment, les travailleurs détachés sont nombreux.
Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas eu le raz-de-marée annoncé d'immigrés venus de l'Est, à l'exception peut-être de l'Allemagne. Et selon un rapport réalisé l'année dernière pour la Commission européenne, ces Européens viennent pour travailler et non profiter des aides sociales. De son côté, l'OCDE a calculé qu'ils payent plus d'impôts et de cotisations sociales qu'ils ne coûtent en prestations et frais de santé. Mais vous savez, Laurent, il est tellement facile de dénoncer son voisin, d'en faire un profiteur de la générosité publique, et malheureusement, ça marche.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info. À très bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt, Laurent.
Et c'est la fin d'Accent d'Europe, une émission généreuse réalisée et mise en onde par Françoise Grelot, à retrouver dès demain, 12h40 en universel. Et tout de suite, sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent.